Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes sur Radio B 90 FM ou en podcast pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Rémi.
Bonjour Martine et à vous tous, auditeurs. Nous allons nous promener aujourd'hui.
Oui, en effet. Prenons le train en gare de Bourg pour nous rendre jusqu'à la Cluse par cette ligne touristique qui franchit vaillamment le Revermont et la montagne de l'Ain.
Avant de partir, nous nous accordons une pause musicale en roulant avec un train à vapeur. Nous sommes en gare de Bourg pour prendre le train de la Cluse. Remontons le temps. Pourquoi avoir conçu une telle ligne dans un relief aussi tourmenté ?
Bien, nous sommes sous le Second Empire, au temps de Napoléon III. La France a déjà tissé un important réseau ferroviaire, partagé en 6 grandes compagnies. Celles-ci sont réticentes à construire de nouvelles lignes à la rentabilité incertaine. Alors, le député de l'Ain, Léopold Le Hon, très proche du pouvoir impérial, conçoit une nouvelle loi au Parlement.
Dans quel but ?
Eh bien pour que les départements prennent le relais par une imposition spéciale, comme pour la construction des routes. C'est la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local.
Que propose le député Léopold Le Hon pour son département de l'Ain ?
Il conçoit un réseau départemental à 6 lignes. Et le fait adopter par le Conseil général.
Ce sont de vraies lignes ferroviaires, en site propre, pas des tramways au bord des routes.
Oui Rémi, de vraies lignes. Et dès le 30 mars 1867, il obtient la concession pour les 3 premières. D'Ambérieu à Villebois, de Bourg à Chalon-sur-Saône et de Bourg à la Cluse, à proximité de Nantua. Ces lignes seront construites de manière économique car elles ne sont pas destinées à être parcourues par de nombreux trains.
Pourquoi de telles lignes, Martine ?
Pour leur intérêt économique. En bon député, il agit pour le développement de son département. Pour la pierre de Villebois, les produits agricoles de la Bresse, les vins et le bois du Revermont. Ces produits ne seront pas acheminés jusqu'à leur destination, mais jusqu'à une grande gare où le relais sera assuré par le PLM, la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Le but premier n'est pas de gagner de l'argent avec les trains, mais de favoriser l'écoulement des produits de l'Ain.
Les études sont lancées, et après ?
Bien, le département exproprie et achète les terrains nécessaires et les met à la disposition d'une compagnie pour la construction des lignes. La compagnie des Dombes est choisie, qui, après son extension, deviendra la compagnie des Dombes et du Sud-Est. Elle se met au travail dès que l'assise des lignes lui est confiée.
Les lignes d'Ambérieu à Villebois ou de Bourg à Chalon-sur-Saône parcourent des zones de plaine. Ce n'est pas le cas de Bourg à la Cluse.
Non, qu'importe. Nous sommes sous le Second Empire, au temps des possibles. Nous avons dit que de nombreuses lignes ferroviaires ont été ouvertes. On s'est aussi élevé des viaducs ou percé des tunnels.
Sur les quelques 37 km de Bourg à la Cluse, leur proportion est importante.
Malgré la chute du Second Empire, le projet est maintenu. Durant les années 1872 à 1876, les 5 viaducs construits sur la vallée de Ramas, les rivières du Suran, de l'Ain, de l'Oignin et de l'Ange, représentent plus de 490 mètres, sans compter les ponts ordinaires. Le viaduc le plus prestigieux est celui de Cisbolozon, à 2 étages, avec 269 mètres de long et 53 mètres de hauteur. Les 5 souterrains totalisent 5428 mètres et 93 cm. Là, on mesure au centimètre. Hein. Le plus long est celui de Mornay, sous la montagne du Bertian. 2548 mètres et 65 cm. Il faut aussi creuser des tranchées et établir des murs de soutènement.
C'est l'autoroute des Titans avant l'heure.
Ah oui, en quelque sorte. Avec les moyens techniques du moment, avec une totale précision ainsi que la même solidité. On creuse les souterrains par les deux extrémités simultanément. L'œuvre des ouvriers est admirable.
Aucune surprise n'intervient ?
La guerre franco-prussienne a fait sombrer l'Empire, mais pas la ligne. Les travaux se poursuivent et la plateforme est rapidement établie du côté de Bourg, mais la compagnie éprouve des difficultés à se raccorder en gare de Bourg avec ses autres lignes. La ligne de la Cluse arrive du côté est et les lignes de Villars et de Châlons sont du côté ouest. Entre les deux, le PLM ne veut pas que ces voies soient traversées et créer des difficultés à une compagnie désormais concurrente par son extension.
C'est un peu compliqué et les autorités imposent un accord.
Alors la ligne de la Cluse arrivera en impasse près du buffet et une passerelle sera construite au-dessus des voies du PLM. Une seule gare où les deux compagnies doivent cohabiter. La ligne de la Cluse est progressivement ouverte, d'abord jusqu'à Simandre le 10 mars 1876 et jusqu'à Cise-Bolozon le 6 juillet 1876, après l'achèvement du viaduc sur l'Ain.
La suite est plus compliquée.
Les premiers tunnels ont été creusés sans difficulté particulière. La pierre extraite des montagnes a même été expédiée pour construire le fort de Vancia aux portes de Lyon et ensuite pour élever le viaduc sur l'Ain. La montagne du Bertian réserve une mauvaise surprise. À l'automne 1873, une faille déverse un torrent d'eau. Il faut prévoir une évacuation, car cette eau arrive en permanence. C'est même le réseau hydraulique de la montagne qui est modifié par ce tunnel.
Les travaux se terminent néanmoins.
Oui, avec quelques mois de retard, sur la date initialement fixée par la concession. Les trains commerciaux circulent à partir du 29 mars 1877.
Martine, nous pouvons donc emprunter une ligne très touristique. Nous quittons Bourg. Nous passons à quelques pas de l'église de Brou et nous nous arrêtons à la première gare rencontrée, Césaria.
Même pas, Rémi, même pas. Il y a autre chose à voir et à raconter. Et nous reviendrons le mois prochain à Césaria pour notre prochaine chronique du passé.
La gare suivante est donc...
C'est Ville-Reversure, le village natal de l'écrivain cheminot Étienne Catin, le père de Paul Catin, ancien archiviste de l'Ain. Étienne Catin, doublement primé en 1953 et 1954, s'est signalé par ses romans qui évoquent le monde ferroviaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Un monde déchiré entre le devoir de servir et la nécessité de résister. Entre Césaria et Ville-Reversure, la halte de Sénécia ne sera établie qu'en 1882, à la demande des habitants. Un embranchement y sera aussi créé pour l'expédition de la pierre locale et le hameau sera animé par une vogue annuelle pour la Saint-Pierre, au plus près du 29 juin.
Nous repartons donc de Ville-Reversure pour arriver à Simandre-sur-Suran. Nous franchissons ensuite le tunnel de Racouze, de plus d'un kilomètre et demi, et après un coup de sifflet de la locomotive, nous débouchons
sur le long viaduc, sur la rivière d'Ain et la magnifique boucle de Daranches. Arrêt en gare de Cise-Bolozon. Arrêt pour les pêcheurs de Bourg qui arrivaient de bon matin. Leur famille affluait ensuite pour le pique-nique commun. Après une ultime boisson prise dans l'un des cafés du lieu, le retour à Bourg se faisait ensemble dans l'après-midi. Presque les bords de Seine ou de la Marne pour les Parisiens.
D'autres particularités du lieu ?
On y expédiait les cerises de Bolozon jusqu'à Lyon. Mais même à Paris, dit-on. Et la pierre de Cise, l'autre village qui donne son nom à cette station. Pour faciliter les charrois, on a élargi légèrement le passage routier du viaduc au premier étage. À propos de taille de pierre, la fabrique d'outils de Gênes Morgon a tenté de s'implanter à Bolozon à la fin du XXe siècle, en utilisant la force hydraulique, finalement insuffisante.
Nous reprenons le train. Le mécanicien active son feu pour que la locomotive donne sa pleine puissance pour franchir une longue rampe et ses trois tunnels successifs, les deux de Bolozon et celui du Bertian, de plus de 2,5 km.
Un tunnel toujours humide, nous l'avons dit. Et l'humidité ne facilite pas l'adhérence, déjà passable, des roues métalliques sur les rails métalliques. Il faut tout le savoir-faire des cheminots pour surmonter cette difficulté. Surtout que ce tunnel souffre d'un manque d'aération et les risques d'asphyxie sont bien réels.
Certaines fois, ça ne passe pas.
Tous les cas ne sont peut-être pas connus. Une alerte se produit en août 1907. Un train de marchandises s'arrête dans le tunnel et ne peut pas repartir. Le mécanicien a un réflexe étonnant. Il décroche sa locomotive pour aller faire le plein d'eau en gare de la Cluse et retourner chercher son train. Cet incident pousse le député local Eugène Chanal à intervenir auprès du ministère pour améliorer la situation.
Il reçoit une réponse rassurante en octobre 1911, mais...
Mais le temps passe et la guerre de 1914-1918 survient. Les priorités sont ailleurs. Le temps passe. La paix revient et les trains continuent à circuler entre Bourg et la Cluse. L'incident redouté se produit le 30 mai 1922. Un train de marchandises part de Bourg avec une machine en tête et une en queue pour le pousser. Malgré cela, ce train ne peut franchir le tunnel du Bertian. Les mécaniciens essaient de remettre en route leur train, mais l'oxyde de carbone dégagé provoque la mort de 7 des 8 cheminots présents sur le train. Équipe de conduite et serre-frein. Le drame pour une contrée et une corporation.
Après le deuil, des mesures sont enfin prises.
Une usine de ventilation est installée, côté Nurieux, en 1924, en attendant l'électrification de la ligne.
Celle-ci arrivera après bien des décennies, après bien des épisodes.
Notamment l'effondrement du viaduc à la suite d'une action de la résistance. Le viaduc est reconstruit et les trains le franchissent à nouveau à partir de mai 1950. Les années passent. La ligne est remise en cause. Puis, après un revirement des objectifs, elle est modernisée en 1989.
On parle même du passage du TGV Paris-Genève.
L'idée paraît étrange, mais elle prend forme. La décision est prise en 1999. La ligne est fermée en 2006. Les travaux sont engagés avec du retard. Mais les premiers TGV circulent à partir du 12 décembre 2010. Ces TGV continuent à circuler aujourd'hui. La ligne reste égale à elle-même et elle est toujours aussi agréable à parcourir.
Nous sommes arrivés au terminus de notre chronique.
Eh oui. Au revoir Rémi. Merci Jimmy à la technique de Radio B. Et voilà, c'est l'été et Julien Clerc nous invite à partir. Partons.
Partir. De couleur, partir avant qu'on meure, partir, partir, comme les trains semblent quand on y pense, et les bateaux heureux quand on y danse, au partir sans rien dire, mais c'est vrai, le temps. Partir, partir, même. avant.